Donc, bienvenue à ce premier discours sur le thème de la mort dans le cadre de ces retraites d'un jour sur l'impermanence. Et donc, le thème de la mort est évidemment un peu le thème ultime de l'impermanence. Et donc, ce que j'aime bien pour moi, pour ma pratique, en fait, c'est les retraites d'un jour et même l'enseignement d'une façon générale, ça me permet de vraiment consacrer mon esprit à un thème et de le faire vivre en moi encore plus intensément que d'habitude. Et donc là, depuis un mois, c'est ce thème de la mort qui est plus présent, en fait, dans mon quotidien, dans mes réflexions, dans mes pensées, dans mes observations. Et voilà, c'est riche, en fait. C'est riche pour moi et c'est cette richesse, en fait, que j'ai envie de partager. En y réfléchissant, je remarquais encore quelque chose qui est quelque part qu'on sait, mais qu'on ne se dit pas tous les jours, mais c'est combien ce thème est absent du discours et de la conscience dans notre société. Très très fort. Alors bien sûr, on côtoie la mort à certains moments dans notre existence, quand même, mais ce n'est pas comme si c'était vraiment. C'est un des moments majeurs de la vie, et pourtant il n'est pas considéré, il n'est pas présent en fait dans notre esprit d'une façon régulière comme beaucoup d'autres thèmes qui sont majeurs. Et on peut même dire que c'est un tabou, c'est-à-dire que on essaye à tout prix de ne pas y penser parfois et d'effacer toute trace qui nous permettrait d'avoir des rappels. Et je pense sincèrement que ça nous manque dans notre construction, dans la construction de notre identité, dans la manière dont on envisage notre vie, dans la manière dont on prend nos décisions. Il nous manque une conscience de notre finitude, une conscience de la brièveté de notre séjour sur Terre, de notre vie. On vit comme si on était permanent quelque part. On n'a pas suffisamment de rappel, à mon sens, et ça c'est quelque chose qui est très, très sociétal, on n'a pas suffisamment de rappel de notre finitude, de la brièveté de la vie, de la fragilité de la vie. On en a, bien sûr, tout le temps, mais pas suffisamment. On essaye en fait qu'il y en ait le moins possible. Et je repensais évidemment, donc j'ai habité en Inde. Et je passais entre 3 et 5 mois par an à Bénarès. Et donc, en allant au cours, je prenais des cours de musique classique. Et en allant chez mon maître de musique, je passais vers un des deux grands Burning Ghats, donc les bûchers de Bénarès. Et en fait, au début, ça fait bizarre, mais à un moment, ça devient normal. Et on regarde combien y a de Koria, et on regarde, et puis il y a les familles. En plus, il y a une vie tellement incroyable, c'est des endroits tellement vivants, en fait, les bûchers de Bénarès. Je vois des gens qui aussi de la tête, et je vois des gens qui y sont passés, mais c'est incroyable, en fait. Imaginez, c'est des endroits où, en fait, il y a des feux. Déjà, c'est incroyable, ils construisent des feux d'une pile de 1 mètre de haut, parce que c'est long de brûler un corps, et ils ne peuvent pas rajouter du bois. Parce que ce serait par-dessus et ça irait pas. Donc en fait, ils doivent construire un feu qui va pouvoir brûler tout le corps en une fois. Et ils ont vraiment une science du feu qui est incroyable. Et donc vous avez ces espèces de pyramides de bois avec des corps dessus, des corps qu'on voit, mais ils sont couverts parfois par un linceul, mais qui sera le premier truc à brûler de toute façon. Et donc il y a une vie incroyable parce que déjà en hiver, bah, c'est le seul endroit où il fait bon. Alors il y a plein de gens qui viennent se chauffer près des feux. Il y a les enfants qui viennent jouer. Il y a les vaches qui viennent manger les colliers de fleurs, parce qu'il y avait plein de colliers de fleurs et plein de fleurs qui sont arrivées avec le corps. Et puis du coup, il y a des fleurs un peu partout qui flottent sur le Gange, puisque c'est au bord du Gange, mais aussi un peu qui sont partout. Donc il y a les animaux, les vaches, les chèvres qui sont là et parfois qui se bagarrent pour des colliers de fleurs à manger. Et il y a plein de gamins. Et ça fait partie de la vie, en fait. Et c'est un endroit presque, j'ai l'impression. Alors il y a aussi les familles, il y en a qui pleurent, il y en a qui font de la musique, enfin voilà, il y en a d'autres qui marchandent le bois, enfin il y a tout ça quoi, c'est très complet en fait comme endroit. et c'est très vivant. Et Bénarès, où j'étais, qui est la ville de la mort, Shiva, le dieu destructeur, est un endroit extrêmement vivant. Extrêmement vivant. Et voilà, ici, on n'a pas ça. On n'a pas cette proximité avec la mort. Et si on habite en ville, encore moins. Encore dans la nature, de temps en temps, on va voir un petit oiseau mort, ou on va croiser en fait des signes, ou un crâne, ou un petit squelette sur le côté. Mais voilà, sinon, ça manque énormément, je pense, à notre expérience. C'est pas là dans nos pensées, c'est pas là dans notre manière d'envisager la vie, en fait. Et pourtant, ça compte. Ça compte, là, de savoir qu'il y a une date limite. Quelque part, ça influe sur les décisions qu'on prend. Et si on vit sans cette conscience, à ce moment-là, on va plus facilement remettre, comme si ce n'était pas vraiment urgent ou important, des choses qui pourtant sont urgentes. Je lisais que Picasso disait... Ne remets à demain que ce que tu es capable de ne pas regretter sur le lit de ta mort. Ne remets à demain que ce que tu es tout à fait OK de ne pas regretter, tu n'auras aucun regret si tu es sur ton lit de mort. Et je pense que c'est ça dont on a besoin. On va explorer ce thème de la mort et on va voir qu'il n'est peut-être pas si morbide que ça. Mais déjà là, on peut voir qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la conscience de la mort, dans cette notion que, comme le dit Picasso, si on sait qu'à un moment on sera sur notre lit de mort, et qu'on prend nos décisions avec cette connaissance, eh bien nos décisions vont être enrichies en fait. On va prendre des décisions plus justes. C'est quelque chose que... Alors, je ne sais pas si vous le faites, ça, parfois. Certains, probablement, oui, d'autres, non. Certains l'ont peut-être déjà fait. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Quand il y a une décision un peu importante à prendre, quand il y a un choix où j'hésite entre deux choses, je me dis, le jour de ma mort, qu'est-ce que j'aurais préféré faire? Si je regarde derrière, de quoi est-ce que je serais le plus fier? Qu'est-ce qui serait le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Si je regarde ma vie en arrière, quel choix est-ce que j'aurais aimé avoir fait? Et parfois, mais franchement, c'est clair. Directement, alors que j'étais dans une certaine hésitation, c'est clair. Ça, c'est, pour vous donner un exemple, c'est un type de pensée que je vais avoir quand, dans mon métier, donc le fait de partager la méditation, je vais avoir des choix entre parfois des directions qui vont peut-être me rapporter plus d'argent ou des directions dans lesquelles je sens que là, vraiment, c'est important d'aller. Mais parfois, ce n'est pas facile, d'autant plus que ce n'est pas comme si j'en avais trop de l'argent. Et donc, du coup, il y a cette « qu'est-ce que je fais là ?» Mais si je m'imagine sur mon lit de mort et je me dis quelle est la direction que j'aurais vraiment aimé choisir, c'est clair. Ça remet en fait la hiérarchie d'importance. Et donc c'est ce que nous dit Picasso. De ne pas remettre à demain tout ce qu'on pourrait regretter de ne pas avoir fait quand on est sur notre lit de mort. Et ça peut être utiliser comme une pratique, comme je viens de le décrire, d'une façon très consciente, quand on est face à un choix, d'une façon très consciente de s'imaginer, de se dire, tiens, comment est-ce que ça sera à ce moment-là? Et peu à peu, ça peut aussi devenir, ça peut infuser quelque part notre manière de vivre. Donc cette conscience, c'est le but quelque part de ce genre de réflexion et de ce genre de pratique, c'est le but, c'est que ça devienne intuitif, que quelque part on vit avec ce savoir qu'on va mourir. C'est Jung qui disait, c'est incroyable comment l'humain est capable, même s'il sait qu'il est mortel, est capable de vivre comme s'il était immortel. Et en fait, on voit les enfants, un enfant, il est immortel, un enfant. Ça met du temps, en fait, de comprendre que la mort arrive. Et bien sûr, quelque part, plus on prend de l'âge, plus, quand même, ça devient un thème. On voit peu à peu qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans le corps, on voit peu à peu des restrictions qui arrivent, et peu à peu, bah, on sent quand même que ça vient. Mais on a un pouvoir de négation qui est assez fort. On peut quand même très très fort le nier. Et certains d'entre nous parviendront à le nier beaucoup jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe? On sent comment, en fait, quand on a un truc comme ça qui arrive et qu'on ne veut pas voir? On sent comment? Il y a tous des espaces de nous-mêmes qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas accessibles. Il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir. On vit, en fait, dans un espace réduit. Et ce n'est pas comme si dans cet espace réduit, tout était génial. Il y a quand même du stress, il y a un stress existentiel là derrière, parce qu'il y a quand même elle est là quand même cette question, même si on ne veut pas lui ouvrir la porte, même si on ne veut pas lui accorder d'attention, elle est là quand même cette question. Et moins on veut lui accorder d'attention, moins on veut lui ouvrir la porte, plus quelque part elle nous grignote, j'ai envie de dire. Elle n'est pas, elle ne peut pas faire partie du panorama alors qu'elle aurait vraiment sa place. Et elle a un impact sur la manière dont on vit, sur les décisions qu'on prend, sur les choses qu'on fait, sur les choses qu'on ne fait pas. Elle a un impact sur nos attentions, sur les décisions, sur les actions. Parce qu'elle est là, parce qu'il y a quand même ce savoir. On ne veut juste pas avoir ça à l'esprit, on ne veut juste pas y passer du temps, on ne veut juste pas être avec. Et pourquoi? Et je pense que c'est important ce pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accorder du temps à quelque chose qui est si inéluctable, si naturel, si normal? Enfin, je veux dire, on est combien? On est 7 milliards sur Terre? C'est ça? J'arrive plus à suivre, parce que ça va vite. Hein. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards de gens qui vont mourir dans les 100 ans qui viennent? 7 milliards de gens. Et ce n'est même pas une catastrophe. Ce n'est même pas parce qu'il y a un problème. Il y a 7 milliards de gens qui vont mourir, on n'en parle même pas. Et c'est juste ça, en fait. Il y a des centaines et des milliers de milliards de gens, et on ne parle pas encore des animaux et de tout ce qui vit, hein, et de la nature qui se renouvelle et tout. C'est là tout le temps, c'est là tout le temps. Et quelque part, nous, dans une espèce de sens d'importance, on vit comme si on échappait à cette loi, et comme si cette loi ne faisait pas partie de nous, comme si elle n'avait pas sa place. La peur de souffrir au moment de la mort, on peut comprendre. Mais la peur de la mort elle-même, la disparition, est-ce qu'elle est vraiment... Je pense déjà que plus on essaye d'éviter cette réalité inévitable, plus cette peur grandit. Ça devient, c'est comme quelque chose dont on doit s'occuper et dont on ne s'occupe pas. Et puis on ne s'en occupe pas. Et au moins on s'en occupe, au pire ça devient. Alors un jour il faudra bien s'en occuper parce que le problème grandit. Et bien là je pense que c'est pareil. Le fait de ne jamais vouloir regarder en face la réalité du fait que tout le monde va mourir, y compris nous, et le fait de toujours le laisser un petit peu de côté, fait que cette peur et cet inconfort par rapport à ce fait grandit. Et ça devient de plus en plus terrible, de plus en plus irregardable, inacceptable, problématique. Mais cette peur de la cessation, aussi, parfois, il y a des fois, je me dis, il y a des fois, j'imagine que je meurs et que je fais, ah oh merde, c'était juste ça alors. Tout ça, toutes ces peurs, toute cette tension. Et c'était juste ça. Et je ne veux pas dire que c'est comme ça que ça va se passer ou que c'est juste ça, mais c'est juste une sensation. Et je trouve que ça ne dit pas que en fait la mort c'est rien ou que la mort c'est magnifique ou c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ça pourrait être vraiment. Il faut pouvoir et qu'on soit capable d'envisager que c'est tout autre que quoi que ce soit qu'on pourrait imaginer. Et qu'en fait c'est un thème, on est complètement, complètement ignorant. Alors c'est une peur de l'inconnu. Ce qui est terrible, ce qui est difficile à vivre, c'est pour ceux qui restent. mais pour celui qui meurt. Moi, je sens que je suis tout à fait ouvert au fait que ça peut être super, en fait. C'est bizarre à dire, hein? Mais je suis tout à fait ouvert, je suis tout à fait, pas simplement ouvert, je considère la possibilité réelle que ça soit super. Voilà, j'en sais rien, je dis pas que c'est super, mais ça fait partie de comment je peux aussi envisager la mort. Après, on ne sait pas ce que c'est la mort, par contre, je pense qu'on a la capacité de s'imaginer plus ou moins au moment où on meurt, ou les quelques jours avant, si on sait qu'on va mourir. Et là, on est capable de savoir ce qui va faire qu'on peut bien mourir, ou ce qui va faire qu'on ne peut pas bien mourir. Je pense que maintenant, quel que soit l'âge, on est déjà capable de se dire, tiens, ça serait difficile de mourir si, ou ça serait plus facile de mourir si. Et là, on peut l'explorer un peu ensemble. Je pense qu'on peut se dire que, par exemple, ça serait difficile de mourir. Moi, je pense que j'aurais du mal de bien mourir si j'ai passé toute ma vie à accumuler de l'argent, des biens, du confort, de la sécurité, et si je me suis tout le temps occupé de moi. Et si j'ai essayé de sécuriser un maximum ma vie, par exemple, je pense que ce serait difficile de mourir avec la conscience que le fait que j'ai accumulé énormément d'argent fait que j'ai nié des situations autour de moi où l'argent était nécessaire et je l'ai gardé pour moi parce que je voulais garder de l'argent pour moi et j'ai pas été à même d'être au service de ce qui était nécessaire là. Si je sens ça au moment de ma mort, je pense que ça va être difficile. Il y aura du regret. Dira maintenant tout cet argent et quoi. Ça me rappelle une histoire quand j'étais gamin. On passait le week-end chez des amis et les enfants, ils avaient organisé dans le grenier, ils avaient organisé des stands comme une petite fête foraine, des stands où on pouvait, avec des petites balles, on pouvait tirer dans des boîtes de conserve. Ou, enfin, il y avait plein de jeux comme ça et on avait reçu des morceaux de moquette. Et avec ces morceaux de moquette, on pouvait un morceau de moquette et on pouvait jouer à ça et on pouvait payer des trucs. Et on tenait des stands et on recevait aussi des morceaux de moquette. C'était notre argent, quoi. Et ça durait tout le week-end. Et moi, j'avais gardé tous les morceaux de moquette. Je jouais à rien et j'empilais. Et à la fin, les autres, ils pouvaient même plus jouer, ils n'avaient plus de moquette. Et après, le week-end, c'était fini. J'ai rendu mes moquettes et je vais rejouer à rien. Ça m'avait frappé, ça. Et je me sentirais un peu comme ça. Je me sentirais un peu comme ça si j'avais gardé tout cet argent et des maisons et des choses et tout. Et finalement, que je n'avais pas fait avec ce qui aurait été nécessaire pour soutenir la vie et pour vivre avec beauté, avec grandeur, avec dignité et pour vivre une vie au service d'eux. Ben, je pense que j'aurais du mal à mourir. Et du coup, c'est ça en fait, quand on s'imagine sur le lit de notre mort et qu'on se dit, bah tiens, à quelle décision prendre? C'est à ça qu'on réfléchit en fait. On se dit, tiens, là, de quoi est-ce que je serais fier à ce moment-là, vers mon dernier souffle? Et je pense qu'il y a des choses, si on a passé son temps à cultiver la renommée ou le pouvoir. C'est pas que la renommée ou le pouvoir soit problématique, mais à partir du moment où ça devient notre attention première et au détriment d'être au service et de répondre avec justesse aux situations qui nous entourent, à ce moment-là, pour moi, ce sera très difficile. Et au contraire, si on au mieux qu'on peut, parce que c'est impossible d'atteindre la perfection. Mais si au moins on a l'intention déjà de vivre une vie au service de la vie, de soutenir les gens qui nous entourent, d'amener notre voix là où elle est nécessaire, même si ça nous met en risque, si on ose amener notre voix là où elle est nécessaire, même si ça nous sort de notre zone de confort, mais parce que c'est juste, parce qu'on sent et on sait que c'est juste, Et si on vit une vie comme ça, à ce moment-là, on peut avoir, on peut vivre toute une vie qui est satisfaisante, en fait. Et c'est déjà satisfaisant dans le moment où on vit, beaucoup plus. On atteint un type de satisfaction bien différent de vivre avec justesse, en répondant avec justesse aux situations qui nous entourent et en vivant avec cœur et amour, on va atteindre un type de satisfaction qui est tout autre que la satisfaction de l'accumulation et de pouvoir s'offrir tout un tas d'expériences. Ce n'est pas la même chose. On ne vit pas la même chose. On ne touche pas au même goût de la vie. C'est génial de pouvoir s'offrir tout un tas d'expériences. Moi, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent et je pourrais faire énormément de choses. Et ça serait super, j'aimerais beaucoup ça. Mais ce n'est pas le même goût que le goût d'être au service et de se dédier, d'offrir, de vivre avec cœur. Parce que ce n'est pas vivre avec cœur, s'offrir tout un tas d'expériences, se mettre en sécurité, travailler à sa propre sécurité tout le temps. C'est nécessaire aussi et ce n'est pas bien et mal. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de se dédier à l'autre, de se dédier à la vie, de soutenir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui allège la souffrance. Parce que à l'inverse, s'occuper de ses propres expériences, chercher à être toujours en plus de sécurité, à démultiplier les choses qu'on vit et à posséder plus, crée de la souffrance pour les gens qui sont autour de nous. On est toujours en attente des gens qui sont autour de nous qui nous amène une certaine satisfaction, ça crée de la souffrance, ça crée beaucoup de pression sur la planète, pour qu'on a beaucoup de consommation, beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, ça déséquilibre une société avec une accumulation de richesses et tout ça, pour moi. Un petit peu de ça va, mais il faut rester dans un certain équilibre, il faut donner beaucoup pour avoir c'est pas le même goût en fait. C'est ça, je trouve que c'est une réalisation importante, ça vaut la peine de réfléchir. C'est pas le même goût quand on vit, c'est pas le même bonheur. On peut avoir un bonheur de s'occuper de soi et d'avoir de l'argent et de faire plein de choses, et on voit des gens qui sont heureux avec ça, ok. Enfin, ok, ça se questionne. Mais très certainement, pour qui a vraiment touché le bonheur d'aimer, c'est pas le même, pas la même chose. Et je pense qu'au moment de la mort, là, ça fait une grosse différence. Si on a cherché un bonheur égocentrique toute sa vie, ben, tout ça, en fait, on va le perdre. Et on aura, à mon sens, c'est des questions ouvertes, hein, à mon sens, une grave sensation d'être passé à côté de sa vie, quelque part. À quoi cette question de « ai-je été utile, même ? » Est-ce que ça avait un sens ? Ah, si on a été là pour servir, pour aider, pour soutenir, pour amener de l'amour, pour enlever de la souffrance, bah, c'était bien qu'on soit là. C'était bien. Si on s'est occupé de soi et de soi, est-ce que c'était bien qu'on soit là? C'était peut-être fun, mais est-ce que c'était bien qu'on soit là? Qu'est-ce qui nous dit que c'était bien qu'on soit là? Ah, c'est des questions, vous voyez, quand on parle de la mort, c'est ces questions-là, en fait, qui nous viennent. Et ça peut, ces questions-là, elles peuvent changer notre trajectoire. Des décisions qui étaient latentes, qui étaient quelque part quelque chose qu'on a envie, qui se manifeste dans notre vie, mais c'est un peu loin, on n'y accorde pas vraiment d'attention, c'est comme une aspiration, ça peut sembler un peu inaccessible, ou bien on n'y donne pas assez d'énergie, subitement ça peut devenir « ah oui, ah oui, là en fait, oui, c'est important ». Et je me rappelle d'un voisin qui est décédé il y a longtemps maintenant. Il était vieux quand j'étais jeune. Et je passais du temps parfois avec lui. Il était sur sa terrasse, là où j'habite, à Boissezon. Et là, il pouvait plus vraiment marcher. Et il regardait la montagne. Il était tout le temps face à la montagne. Toujours dans le même siège, face à la montagne. Et il disait, et dire que j'aimais tant chasser. Et dire que j'aimais tant courir dans la montagne. J'ai passé ma vie à travailler. Et il vivait du regret, mais il regrettait. Et dire que j'aimais tant pêcher. ils pêchaient, ils plongeaient dans le rocher et ils attrapaient les poissons en plongeant dans le rocher. Ou alors ils passaient sous les rochers et ils caressaient les poissons et ils les ramenaient à la main. Il adorait ça. Mais il a développé un domaine immense, un domaine viticole immense. Et il a été complètement pris par son travail. Et là, il ne pouvait plus. C'était fini. Il ne pouvait plus aller dans la montagne. Il allait dire que j'aimais tant ça. Et l'autre jour, c'était avant-hier, je pense. C'est ma mère qui me disait, je commence, elle a 88 ans, et elle habitait en Belgique. Maintenant, depuis une dizaine d'années, elle habite en France. Pendant très longtemps, elle a fait des allers-retours. Maintenant, elle ne peut plus faire les allers-retours. Et son frère est là-bas. Lui non plus, il ne peut plus bouger. Donc, il y a deux jours, elle me disait, ça me fait bizarre de penser que je ne verrai plus jamais mon frère. Ils sont tous les deux vivants, mais elle ne peut plus se déplacer vers là et il ne peut plus se déplacer vers ici. On a commencé à faire des visios un petit peu. Mais voilà, c'est ça aussi la mort. Ça, c'est déjà, quelque part, c'est ce qu'on appelle une petite mort. C'est déjà un petit bout de ce qui nous fait notre vie qui est enlevé. Et c'est ça, vieillir. Petit bout par petit bout, des choses, des gens, des possibilités, des capacités nous sont enlevées. Et on fait l'expérience d'un petit peu mourir déjà. Et de tout au long de notre vie, il y a des choses, c'est ça la permanence, il y a des choses qui étaient là, qui ne sont plus là, ça faisait partie de notre vie et hop, ça s'en va. Mais il y a un flux, ça s'en va et d'autres choses reviennent, ça s'en va et d'autres choses reviennent. Et la grande mort, c'est quand tout s'en va, toutes ces choses-là s'en vont d'un coup. Tout notre univers familier, toutes nos petites habitudes, toute notre capacité, le chant des oiseaux, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est familier, tout ce qui est perceptible par les cinq sens. De nouveau, culturellement, c'est difficile à entendre ça, parce que c'est comme si on perdait tout. Parce qu'on ne sait pas non plus qui on est. On ne sait pas, en fait, qui meurt. C'est ça, souvent, il y a cette question de qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Mais on ne peut pas répondre à cette question tant qu'on ne se pose pas la question, c'est quoi la vie ? Ou qui meurt ? Qui meurt ? Est-ce que la totalité de ce qui est nous meurt ? Personne ne peut avoir une réponse définitive à cette question. Est-ce que la totalité de ce qui fait, qui est nous meurt ? Alors on peut dire peut-être, nous, dans notre monde extrêmement matérialiste, dans le sens où on a une vision de la vie est née grâce à la matière, le Big Bang, les atomes qui se rejoignent, qui font des molécules, et puis les molécules font des organismes vivants, et puis les organismes vivants se développent, et un jour il y a l'homme. Ok, ça c'est l'expérience et la conscience, pour la majorité des neuroscientifiques actuellement, est un produit du cerveau, de l'activité complète en fait. On ne voit pas d'où vient la conscience, mais la théorie la plus en vogue, c'est que la conscience est le résultat de la totalité des activités du cerveau. Bien qu'on n'arrive pas, puisque du coup on n'arrive pas à dire exactement d'où elle vient, c'est la théorie la plus en vogue. Mais ce n'est pas du tout prouvé, c'est juste une théorie. Et il y a d'autres neuroscientifiques qui pensent que la conscience existe en dehors du cerveau et en dehors de la matière. Alors nous, on en est réduit si on a une compréhension strictement matérielle de l'existence, donc cette évolution partant des atomes et tout ça, on en est réduit à se dire que ceux qui ne meurent pas, c'est les atomes, qui notre corps revient et vient renourrir les plantes, la planète, où les atomes les atomes s'éparpillent et recomposent d'autres matières. Et ainsi, il y a quelque chose qui est recyclé. C'est tout ce qui nous reste comme accès à autre chose. Dans d'autres cultures, c'est très très différent. Et en fait, nous, on a un mix de cultures incroyable maintenant par rapport à l'idée de la mort, parce qu'on a quand même tous une idée de la mort, plus ou moins, de l'après. Hein ? Certains vont, il va y avoir le nihilisme complet, c'est plus ou moins ce que je viens de dire, c'est pratiquement le nihilisme complet, donc rien du tout. Et puis, il va y avoir plein d'idées. Une idée qui était prédominante chez nous et qui maintenant est beaucoup, beaucoup moins en vogue, c'est l'idée du paradis et de l'enfer. Hein, mais pendant très longtemps, c'était prédominant. Et ça a toujours, quelque part, j'imagine, un certain impact. Un peu. Hein, c'est métissé avec d'autres idées. Mais la notion de paradis et d'enfer, elle a été tellement présente dans notre culture, pour nos ancêtres. Et après, il y a la notion de réincarnation, hein, qui est moins courante, mais dans certains cercles, comme des cercles ici de méditation, ce genre de choses, certaines personnes aussi envisagent cette possibilité d'une âme qui passe d'un corps à l'autre. Ce qui était en fait, à l'époque, pour les hindous et les bouddhistes, plus ou moins une définition de l'enfer. C'est assez différent dans notre culture. Hein. Parce que renaître encore et encore, se retaper tout ça, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas la santé, il n'y avait pas les facilités qu'on a. Enfin, ici, on a quand même une vie, on a quand même un niveau de sécurité et de facilité peu connu dans le monde à cette époque et dans l'histoire très très largement. Et donc, nous, l'idée de la réincarnation, ça peut encore sembler un peu attrayant, mais à l'époque, la réincarnation, mais c'est ce que tout le monde voulait éviter, quoi. En gros, hein, parce que c'était se refaire tout le truc avec les problèmes de santé, il n'y avait même pas l'aspirine. Hein. Et non, mais enfin, je veux dire, c'était la notion de souffrance, en fait, la réincarnation, et de perpétuer un cercle de souffrance. C'est appelé le samsara. Hein, et donc, il fallait sortir de là au plus vite, quoi. Il y a une notion aussi de plus tard, on retrouve. Les personnes qui sont mortes se retrouvent. Hein, il y a cette notion-là, cette notion qui existe aussi, qui est assez récente en fait. Ce n'était pas quelque chose qu'on trouve dans la chrétienté, ou j'entendais dire, c'est vers les années 1800 en fait que cette notion est devenue, cette manière d'envisager la mort est devenue plus populaire. Et donc nous, on a un peu un sac de mélange. De plein d'idées. Et ces idées-là, elles sont très très importantes parce qu'elles déterminent quelque part notre relation à ce qu'on anticipe de la mort. Donc ce thème, je pense que c'est l'idée des retraites d'un jour, en fait, c'est de venir se poser, de vivre un moment avec soi, de sortir un petit peu du quotidien et de se poser, mais c'est aussi d'ouvrir des nouvelles directions dans nos recherches. La méditation, pour moi, c'est aussi un outil. C'est pas juste pour apaiser l'esprit, c'est pour explorer notre univers, explorer l'univers intérieur, rentrer en contact avec qui on est, observer, mieux comprendre, et de ces nouvelles compréhensions générer moins de souffrance pour nous-mêmes et pour autrui. Ce qui rend du coup plus facile le fait de se poser. Hein, donc il y a toute cette dynamique de recherche et de compréhension. Et là, donc, ce thème qui est introduit, c'est le thème de la mort, c'est de le rendre plus familier, de réintégrer dans notre quotidien, dans notre réalité, la question de la mort, de qu'est-ce qu'est la mort, de vraiment essayer de. Je ne sais pas comment dire, presque, c'est pas faire l'expérience de la mort, mais c'est vivre avec la notion au point que ça devient quand même familier. Au point que on ne se fait pas avoir de. Je pense qu'on peut être vachement surpris en fait. Même à 80 ans ou à 100 ans, on peut arriver à être vachement surpris et se dire, ah déjà? Hein, souvent on l'entend ça. Hein. D'ailleurs, le même papy me le disait. Hein. Il me disait, je crois que je me suis fait avoir, hein, parce que c'est passé tellement vite. Et je pense que. Et je l'ai déjà entendu d'autres personnes âgées aussi. Ça passe tellement vite. Hein? Donc, on ne se rend pas compte. On vit comme si c'était loin. Mais en fait, ça passe tellement vite. Et donc, ça se prépare, ça. Ça se prépare. On sait que ça va venir. C'est une certitude. C'est pas si un jour la mort vient, c'est quand la mort viendra. C'est une certitude. On sait que ça va venir. Si on regarde un petit peu comment ça se passe, on sait que ça va venir vite, que ce soit dans quelques jours ou dans quelques dizaines d'années, ça va venir vite. Au moment où ça sera là, ça sera, ouais, déjà, ça fera ça. Parce que le temps, ça fait ça. Ça peut être très long, mais en fait, c'est très court. Hein, souvent, on a les deux sensations qui sont concomitantes. Et donc, c'est de ne pas se laisser surprendre quelque part, d'avoir déjà une certaine intimité, d'avoir déjà cultivé une familiarité, une proximité, avec tout ce qu'on peut en savoir, parce qu'on peut déjà savoir beaucoup de choses de la mort en tant que vivant, parce que c'est pas on est pleinement vivant et puis subitement on est mort. C'est que déjà de notre vivant, il y a plein de moments de mort. Déjà des proches qui nous quittent, et puis après ça, en nous-mêmes, des choses qu'on pouvait faire et qu'on ne peut plus faire, des capacités qu'on avait et qu'on n'a plus, et puis un voyage qu'on fait et on sait que c'est la dernière fois qu'on va là, ou une personne qu'on voit, on sait que c'est la dernière fois. Enfin, il y a plein de moments. Et on peut aller vers du fractal, vers du tout petit, tout petit, tout petit. Hein. Tout ce qui est impermanent, en fait, c'est chaque fois une expérience d'une petite mort. Mais on a déjà des expériences aussi quand même plus importantes de disparition de choses qui faisaient partie de notre identité, de notre habitude, ou de nos manières de vivre, de nos manières d'être, et qui disparaissent complètement et pour toujours. De là, on peut connaître la mort déjà. Et de s'ouvrir à ça, d'être familier avec ça, de s'ouvrir aussi à l'amour de ce qui disparaît. Et les choses qui sont importantes pour nous, quand elles disparaissent, en nous, elles ne disparaissent pas. D'avoir aussi cette relation. On garde une relation. Parce que ce qui est très intéressant avec les relations, c'est que les relations, avec toute chose, que ce soit avec les choses ou avec les gens, se produisent en nous. La relation que j'ai avec chacun de vous se produit en moi. Et si un jour vous n'êtes plus là, à chaque fois que votre image revient à mon esprit, la relation est là. Et elle se produisait déjà comme ça avant. Donc tout à explorer en fait. Qu'est-ce que la disparition? Qu'est-ce qui disparaît? Et quand quelque chose disparaît, qu'est-ce qui ne disparaît pas? S'intriguer, s'intéresser, explorer, devenir familier. S'approcher, s'ouvrir, va permettre de lâcher les peurs, d'être prêt quelque part. Et pas prêt forcément, toujours, je pense, il va falloir le dire souvent, mais c'est pas forcément prêt à un drame. C'est pas forcément un drame, notre propre disparition. Et c'est pas forcément vécu de l'intérieur au moment de la disparition, comme un drame, un problème. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur une idée morbide de la mort. Ce qui est, intuitivement, c'est ça en fait. Bien sûr, puisqu'on a donné tant d'énergie à construire tout ce qu'on a construit et à acquérir tout ce qu'on a acquis, qu'il y a quand même cette énorme sensation de perte. On a beaucoup aussi de gens, et j'y viendrai plus tard parce que là on arrive à la fin de ce discours, mais on a quand même beaucoup de retours de gens qui nous parlent de la cessation comme d'une chose merveilleuse. Alors on va avoir les EMI, c'est en français c'est EMI, hein, les expériences de mort imminente, voilà. Hein, on en entend quand même souvent parler de ces choses-là. Alors moi, dans mon tempérament, je prends toujours avec des pincettes les retours, mais quand même, il y a tellement de choses que ça m'intrigue, hein, il y a tellement de retours que ça m'intrigue. Et puis, il y a aussi, ne serait-ce que dans le bouddhisme, la cessation, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre de son vivant. On fait l'expérience de son vivant, de la cessation de toutes les expériences. Et là, ça, c'est le Graal, ça. Et donc, il y a quand même, je pense qu'il faut vraiment rester ouvert au fait que, bien que tout ce avec quoi on est familier disparaisse et que tout ce qu'on a construit, en fait, disparaisse, ça peut être quelque chose de magnifique, en fait. Et il faut, ça doit rester dans les possibilités. Et à ce moment-là, on peut avoir l'allant, le plaisir de rester intrigué et de s'approcher peu à peu. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.